Aujourd'hui, je vous propose la rediffusion de l'émission Le Nombril de Vénus du 14 octobre 2023.
Le Nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. C'est une émission avec Blaise et Sandrine autour de la table. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13.
C'est ça.
Dans cette émission dans laquelle on va dévoiler nos coups de cœur littéraires, eh bien, nous avons fait en sorte déjà de commencer à fêter Halloween entre nous, là, on va dire ça comme ça, puisque...
T'as vu le vent? Ouais. Regarde les arbres comme ils bougent.
Ouais.
Tu as provoqué les éléments pour que d'un seul coup, alors qu'il a fait beau toute la semaine, on fait l'émission, t'as l'impression que les murs vibrent.
Exact.
Qu'est pas ça? Qu'est pas ça?
Le ciel, il est noir. Il y a toute cette petite pluie bretonne qui nous crache sur le visage alors que nous étions jusqu'alors habitués au soleil.
Complètement.
Il y a la chaleur. Mm. Et là, tout d'un coup, c'est vendredi 13.
Oui, il y a ce malaise dans l'air.
Oui. Hein.
Et dans les livres que nous allons présenter aussi, je crois.
Exactement, oui. C'est ouais. Ça les filles. En choisissant des livres qui foutent un peu la frousse, c'est bien ça?
Absolument.
Ouais. Alors, dites-nous.
Moi, mon coup de cœur, c'est La Remplaçante.
La Remplaçante, qui est un livre, ça s'appelle comme ça?
Oui.
Ça fait partie d'une collection peut-être?
Oui, la collection du collège Lovecraft. Du coup, c'est le quatrième tome de la saison.
Oui.
Et ça a été écrit par Charles Gilman.
Génial. Est-ce Très que tu bien. Peux nous dire quelle est la maison d'édition?
Oui, c'est Bayard Frisson.
D'accord, on va t'entendre dans quelques instants. Et toi, Sandrine?
Alors moi aussi, je vais parler d'une série, mais cette fois, c'est quand même un titre indépendant. On va parler de femmes, au pluriel, sans merci, de Camilla Läckberg, évidemment, la très grande écrivaine suédoise qui nous offre des romans policiers, des romans aussi, des thrillers, des polars. C'est publié chez Actes Noirs. La collection et les maisons d'édition, évidemment, c'est Actes Sud. Et
moi, je vais parler d'un livre. C'est bien marqué, d'ailleurs, vous avez vu, Inédit, un chef-d'œuvre par Emily St. John Mandel. Mmh. C'est un livre de poche que j'ai vu comme ça dans l'étal de la librairie. C'est un livre qui a été écrit par l'écrivaine Kay Dick et ça s'appelle E. E-U-X. Et Très c'est bien. Un livre vraiment qui fout la frousse.
Ben, je vois, tu trembles.
Ouais,
je tremble déjà, rien que de le toucher.
Alors, peut-être qu'on va laisser Blaise démarrer, justement.
Oui, absolument.
Raconte-nous, Blaise.
Voilà. Ça parle d'un nouveau collège qui est construit avec une technologie avancée. Mais avant sa construction, il y avait un grand manoir où vivait une sorte de savant fou du nom de Crayford Tilligast. Qui réussit à ouvrir un portail dimensionnel sur l'enfer des monstres. Et donc, Matteo Deb, Glenn Torkel et Karina, une fille fantôme, des adolescents qui sont justement dans ce collège, ils ont déjà eu affaire dans les précédents tomes à plusieurs attaques de Crayford Tilligast, qui est le chef des monstres malgré qu'il soit humain.
Oh, wow. Ok.
Et par une grosse tempête de neige qui s'abattait sur le collège, Madame Deb, la mère de Matteo, qui est l'infirmière du collège, elle formait les groupes de classe pour qu'ils prennent le bus pour rentrer chez eux à cause de la tempête. Et étrangement, quand Matteo, parce qu'il a l'habitude d'être, vu que c'est le héros, il a l'habitude de se promener même en danger, même en cas de danger. Et étrangement, quand Matteo passa à voir la bibliothécaire qui les aidait souvent lors des attaques de son frère Crayford, était mystérieusement remplacé par une remplaçante du nom de Madame Carcasse, qui marche bizarrement en boitant avec une infecte odeur de cheveux et de roses brûlées.
Yeah.
Ça fait rêver.
Ouais, c'est clair.
Cauchemardé, pardon.
Ouais, la bibliothécaire. Oh, rêve.
Et cette étrange femme promet de leur causer beaucoup d'ennuis. Et si vous acceptez, j'ai choisi de vous en lire un extrait.
Avec grand plaisir.
Ah, vas-y.
C'est essentiel ici, la lecture à haute voix.
Exact. On adore. C'est quelle page que tu as choisi, Blaise?
La page 111 à 113. Il n'était pas très grand. 1m60 environ, et complètement recouvert de neige. Son visage s'est résumé à 3 trous, 2 yeux et 1 bouche. Il martela la vitre de ses poings avant de perdre connaissance. Mac bondit sur ses pieds. « Viens » lança-t-il à Mathéo. « Je vais avoir besoin de ton aide !» Ils se précipitèrent dehors. L'homme était étendu, inerte, au pied de la fenêtre. Mac passa la main derrière sa tête et lui retira son masque de ski, faisant apparaître le visage de Glenn Torkel. « Portons-le à l'intérieur !» cria Mac en glissant les bras sous ses épaules. « Prends-lui les pieds !» Ensemble, ils le transportèrent à l'intérieur de la cafétéria où ils l'étendirent sur une table. Madame Deb ne perdit pas une minute. « Mettez de l'eau à bouillir et apportez des bougies. Il me faut des couvertures, plein de couvertures et des ciseaux. Quelque chose pour couper ses vêtements, ils sont gelés !» Tandis que tous s'éparpillaient pour chercher ce qu'elle avait demandé, Mathéo se pencha sur le corps de son meilleur ami. Glenn ouvrit les yeux. Il tremblait de façon incontrôlable. « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'exclama Mathéo. « Je croyais que tu avais pris le bus pour rentrer chez toi. J'ai appris que vous étiez coincé ici, » expliqua-t-il. « Le commissaire l'a annoncé aux infos. Et tu es revenu dans la tempête ? Tu es dingue ! Je voulais te prévenir. Me prévenir de quoi ? Le commissaire a dit que ta mère avait appelé du collège, que vous étiez 6, que vous aviez eu un accident de voiture. » « Oui, » confirma Mathéo. « La voiture de Madame Carcasse a calé en bas de la pente et ma mère lui est rentrée dedans. » Glenn secoua la tête. Depuis qu'il était à l'intérieur, son état semblait empirer. Il était secoué de frissons de plus en plus violents. « J'ai vu Madame Carcasse partir, » balbutia-t-il, « par la fenêtre du bus. » Elle n'a pas calé. Bien sûr que si, protesta Mathéo, je l'ai vu. Glenn secoua la tête avec un peu plus de force. Elle l'a fait exprès pour vous enfermer ici. Il cessa soudain de frissonner et ferma les yeux.
Waouh.
J'ai très envie de savoir la suite. Hein.
Oui, c'est clair. Bravo, bravo Blaise. Merci beaucoup pour coup de cœur. C'est un livre pour des jeunes de quel âge ?
Oula, c'est un livre sur le livre. Eux, ils disent que c'est à partir de 10 ans. Moi, je dirais que c'est à partir de 12 ans. Parce que, franchement, le livre, pour la plupart des jeunes que je connais, par exemple, c'est assez, violent psychologiquement parlant. Moi, en plus, qui est une grande fan d'horreur, de fantasy et tout ça, et ben franchement, je me suis bien accrochée à ma culotte. Il m'a vraiment fait peur.
L'oignon et le persil, un peu de coriandre ou de curry, c'est à votre convenance. Faites revenir le beurre à feu doux. La première règle en cuisine, c'est la qualité du produit. Ensuite la cuisson, puis vient l'assaisonnement et la présentation. sur la pleine lune. Les cheveux dans le vent, ce n'est pas très décent, plutôt salissant. Si vous avez choisi le sort céleri, brandissez vos bras, brandissez-les tous. Le velouté de céleri branche, une recette d'automne facile à préparer. Réconfortante, onctueuse. Nous sommes de retour et nous allons cuisiner pour vous quelques drôles de recettes.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, rediffusion du 14 octobre 2023. Nous sommes ensemble avec Sandrine et Blaise autour de nos coups de cœur littéraires avec une littérature qui fout la frousse, on va dire ça comme ça. Ce vendredi 13, nous enregistrons dans le studio de Canal B l'émission que vous écoutez maintenant. Et là, c'est Sandrine qui va nous livrer son coup de cœur.
Ouais, alors moi j'ai très envie de parler de Femmes sans merci, de Camilla Läckberg. Évidemment, je la connaissais avant parce que elle a, j'ai envie de dire, elle est pas la seule, mais c'est celle qui m'a sans doute le plus marquée. Déjà parce que c'est une autrice, donc évidemment, vous connaissez mon appétence pour la littérature, j'ai envie de dire, écrite par des femmes pour tout le monde, mais parce que, pourquoi ? Bah parce que pendant très longtemps, on les a mises un petit peu de côté et on les a effacées. Alors, voilà, c'est l'intérêt que j'y porte. Et ce que j'aime précisément, c'est qu'elle a su créer toute une série. Évidemment, une série avec des personnages qu'on retrouve au fur et à mesure, notamment Erika Falk et son compagnon, le commissaire Patrick Elmstrom. Alors, là aussi, ce que j'aime, c'est que c'est, vous savez, un livre qui n'est pas dans une série. Et très souvent, il dit quelque chose. Il offre une possibilité d'être dans une créativité absolue. Alors, Femmes sans merci, on peut dire que c'est un court texte ou une grande nouvelle, comme on a envie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en sort pas indemne. On va partir dans le récit de trois femmes qui ne se connaissent pas, si ce n'est qu'elles ont tout un point commun. Un point commun terrible, j'ai envie de dire, d'avoir connu à un moment de leur vie une agression, quelque chose qu'on pourrait définir aujourd'hui comme étant en lien avec MeToo. Mmh. Voilà. Donc, c'est quoi ce livre ? En fait, c'est le récit de sororité, comment une solidarité, comment ces trois femmes vont tout faire pour mettre à mal, j'ai envie de dire avec un E, à mal. Tu vois ce que
oui,
je veux dire ?
Oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Leur histoire, évidemment. Donc, c'est un roman d'émancipation, un roman de guérison, de consolidation. Et c'est aussi un roman de combat. On est dans l'idée de parler de thriller, de livres policiers. C'est un livre qui dérange, c'est un livre qui fait mal. C'est un livre qui fait mal parce que ces femmes ont mal. Donc c'est aussi pour ça que ça me plaît. J'avais rarement, je crois que j'avais jamais lu ça dans la littérature à ce point. Comment ces femmes, évidemment, vont se venger. On est bien dans un récit où on va décrypter le mécanisme de vengeance.
Mmh.
Voilà, je préfère quand même mettre un red flag, enfin un truc, quelque chose pour savoir ce à quoi on s'attend quand on va vers ce livre. Pour ma part, je les trouve absolument fabuleux. On est quelquefois dans un langage familier et puis dans quelque chose d'un seul coup d'une écriture absolument remarquable qui
et
dit
dans
les
la,
choses.
Dans le degré de violence, on est quand même sur quelque chose d'assez trash.
On est sur quelque chose de violent,
ouais.
Oui, absolument. Le point de départ, c'est qu'elles-mêmes ont subi des violences.
Ouais.
Donc, on est sur un effet miroir et sur, pas l'enquête, mais sur l'avant. Comment ces femmes font pour s'en sortir. C'est pas une piste, hein, c'est simplement un ouvrage qui est là pour dire, et comme aujourd'hui, on a ce postulat...
Oui, on n'est pas dans le développement personnel, quoi.
Non, pas du tout. On est vraiment dans un ouvrage qui dit clairement les choses.
Oui.
Et On parle de meurtre, voilà, absolument. J'ai décidé de vous lire, ça a été difficile de choisir parce que j'ai envie de parler de ces trois femmes, je vais quand même les nommer. Il y a Victoria, il y a Ingrid, et puis la troisième qui s'appelle, je vous le dis tout de suite, Brigitta. Voilà. Alors, j'ai décidé de vous lire la page 57 en parlant du personnage d'Ingrid. Ingrid avait pendu son sac à main et son manteau à un crochet sous le bar et commandé un gin tonic. La taverna Brio était pleine de jeunes gens branchés en tenue hype. Dans le miroir, derrière le barman, elle avait une vue complète sur la salle, dans son dos. Julia Wahlberg occupait une table ronde avec deux amis. Elle portait un chemisier blanc et une jupe bleu marine. De temps à autre, quelqu'un venait les voir, échangeait quelques mots et finissait en prenant un selfie avec Julia. Elle riait, elle avait l'air de s'amuser, était aimable avec ceux qui l'abordaient, même si Ingrid ne pouvait entendre ce qui se disait. Cachant d'une main l'écran de son téléphone, elle ouvrit un moteur de recherche et y inscrivit le nom de Julia. Elle pouvait toujours occuper en glanant quelques informations. Le problème était qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle ferait ensuite. Se confronter à Julia, lui demander comment elle avait eu le cœur de se laisser entraîner dans une liaison avec un homme marié. Julia Wahlberg, lui dit-elle, avait grandi à Borås, mais avait déménagé à Stockholm pour entrer à l'université populaire. Parallèlement à ses études, elle avait animé une chaîne YouTube sur la politique. Elle vivait sur Bergson Strand, dans le quartier de Hunsfall. Les mains d'Ingrid tremblaient. Elle leva les yeux vers la jeune femme tout en buvant une gorgée de son cocktail. Savait-elle à quoi ressemblait Ingrid ? Il était temps d'avoir le cœur net. Elle rectifia sa coiffure dans le miroir, prit son sac et son manteau et se leva. Elle passa devant la table de Julia en regardant droit devant elle. Elle tenait son téléphone discrètement dirigé vers la tablée. Elle obliqua sur la gauche et alla s'enfermer aux toilettes, inspira à fond, le cœur battant, les jambes en coton. Les mains tremblantes, elle regarda les films. Elle sourit en voyant la réaction de Julia. La jeune journaliste écarquilla les yeux, donna un coup de coude à son amie en faisant un signe vers Ingrid. Elle était absente de la maison depuis 2 heures. Il était tout juste 11 heures passées, elle aurait dû rentrer. Mais curieusement, elle voulut rester à proximité de Julia. Il pleuvait à verse. Ingrid courut vers sa voiture garée près du parc et au moment où elle se jetait derrière le volant, son portable bipa. Elle mit le contact, s'engagea sur Bergersalen tout en lisant le message de Tommy. « Tu es à la maison ?» Elle sourit. Julia avait appelé Tommy, lui avait raconté qu'elle avait vu sa femme au bar. Tandis qu'elle empruntait Kirgenstad en direction de Central Brown, elle répondit « Où veux-tu que je sois ?» Ingrid sourit, posa le téléphone sur le siège passager et se concentra sur la conduite. Les essuie-glaces battaient frénétiquement sous les trompes d'eau. Avec un peu de chance, elle arrivera chez Julia la première.
La chute !
Absolument, on a juste envie de savoir. Là, on est dans la description, en fait, on est dans la mise en abysse. La mise en situation de... On ne sait pas trop qui est qui. J'ai fait exprès de choisir ce passage parce qu'on est à la lisière de... Bien sûr qu'il va se passer quelque chose, voilà. On est dans quelque chose qu'on connaît, on est dans un bar et autres. Et puis, il y a ces femmes-là qui sont en train de souffrir, et ça nous dit des choses, évidemment, peut-être. En tout cas, on est vraiment dans Me Too. Voilà, ce livre dénonce ça. Et rien que pour ça, moi, j'applaudis, bravo. Donc, merci, Camilla.
Excusez-moi, mais c'est quoi Me Too exactement ? L'une de vous sait ?
Eh bien, Me Too, c'est un mouvement qui a démarré il y a quelques années parce qu'il y a une femme qui a osé prendre la parole publiquement pour dire qu'elle s'est fait abuser, entre autres sexuellement, par un gros, gros con. Et à partir de ce moment-là, plein de femmes ont commencé à aussi dire qu'elles avaient subi des agressions pareilles dans le monde professionnel, familial, etc. Et le hashtag MeToo a surgi parce que les gens ils disaient MeToo. Et MeToo en anglais, c'est moi aussi. Mm-mm. Moi aussi, je subis des agressions, de l'injustice, tout ça. Mm. Et c'est vraiment un mouvement qui est, comment dirais-je, une grande parole ouverte parce que avant les femmes, elles subissaient ce genre de choses et on n'entendait pas beaucoup, mais grâce à cet élan et à ce mouvement MeToo, maintenant, on entend et donc on en demande justice davantage. Je pense que c'est pas mal expliqué, là. Ça va. Est-ce que tu as compris, Blaise ?
Oui, merci.
Musique.
Merci, ouais, je viens d'en.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, rediffusion du 14 octobre 2023.
E est le livre de Kay Kadik. Cette femme est née en 1915. Elle était journaliste, autrice et éditrice d'origine anglaise. À l'âge de 26 ans, j'ai lu ça sur Internet, elle est devenue la première femme à diriger une maison d'édition en Angleterre. Donc voilà, c'est une girl power, quoi, tu vois. Voilà, une badass,
comme
on dit.
C'est ça, absolument.
Et donc, E, ça veut dire nous, vous, E, tu vois, E, U, X. C'est un livre de poche que j'ai trouvé là, récemment, dans une librairie. Il vient de sortir, là, en cette année 2023, alors que c'est quand même un livre qui a été rédigé dans les années 70. Un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et comme il est question de frissons, parce qu'on est vendredi, c'est le vendredi 13, et que vous écoutez cette émission durant le week-end, eh bien, bah, voilà, c'était mon choix pour le coup de cœur d'aujourd'hui. C'est un livre épouvantable par son côté anxiogène. Un livre qui raconte la présence massive des hommes armés qui parcourent le pays afin de détruire méticuleusement tout l'art existant. Ils capturent, torturent, voire plus, les dissidents, les écrivains, les écrivaines, les peintres, les musiciens et musiciennes. Ils veulent vraiment protéger la société telle qu'ils le souhaitent des personnes subversives, transformant donc brutalement ou à petit feu chaque individu en sorte de humain genre zombie, tu vois. Voilà. La société imposée par ces tortionnaires est dépourvue de toute poésie, de toute pensée singulière. Ils n'ont aucun intérêt par la nature. D'ailleurs, ils détestent la nature et la repoussent en construisant des immeubles immondes, des centres commerciaux où les écrans sont la diversion du quotidien. Et la violence, bien sûr, est omniprésente. Donc, voyez-vous, là, ça me fait quand même vous dire, tout à l'heure, tu parlais d'une littérature émancipatrice. Là, on est clairement en train de découvrir un livre un peu prémonitoire.
Il y a un petit côté 1984.
Ouais, carrément. Carrément, entre autres. Les résistants existent, bien sûr. Hein. Il y a aussi les célibataires et les couples sans enfants qui sont traqués lors des rafles, c'est vraiment n'importe quoi, avec une impressionnante économie des mots, parce que voilà, on est vraiment dans des bribes par moment dans ce texte. L'autrice nous plonge dans cette atmosphère redoutable, faite de malaise et d'intimidation. Évidemment, il y a ceux qui donc résistent, comme je disais, et qui cherchent à créer des espaces de survie, de se rassembler, de continuer leur création. Mais qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur d'un charmant cottage de la campagne anglaise, eux sont là. Les livres, les tableaux, tout disparaît. Les bruits étranges s'y multiplient. Un chien mort sert à terroriser ceux qui pensent encore, tu vois, qui ont une conscience. Voilà, c'est un texte donc publié encore une fois en 1970. Il a, semble-t-il, donc longtemps été épuisé. Et donc, c'est une merveille de le découvrir là, aujourd'hui, au livre de poche, traduit par Patrick Humbert. Je me permets de vous lire.
Avec grand plaisir. Avec
rapidement, la page 150. Alors, on a bâti d'autres tours sur la côte. Les week-ends, des nombreuses voitures pleines de promeneurs se garaient à côté. Les déchets de pique-nique s'amoncelaient contre les murs sans fenêtres. Les petits garçons étaient encouragés à uriner sur la pierre. Un vieil homme a emménagé dans le cottage vide, juste à côté du mien. Il ignorait tous mes saluts et s'asseyait dans son jardin, où il somnolait la plupart du temps. Inoffensif, désormais, la commerçante parlait de mon nouveau voisin. « Ils l'ont vidé », a-t-elle murmuré, avant de se réengorger. « Plus de souvenirs, plus rien. J'ai payé et je suis partie. Bonjour, mon amour. » Et j'ai dit en rentrant chez moi, ah, ça c'est une manie que la narratrice a, vous allez découvrir dans le livre, de dire bonjour mon amour, pour entretenir quelque chose de positif dans son quotidien. Le vieil homme s'est agité dans son sommeil. À l'intérieur, mon chien a aboyé. Personne. Il n'y avait plus de pages à noter, à arracher dans mes livres. J'ai tout examiné soigneusement. Tout était comme je l'avais laissé. Une légère trace, comme une empreinte digitale sur le panneau de verre de Tim, ça pouvait être la mienne.
Ce soir-là, je me suis rendue à une fête des voisinages. Je suis repassée devant le pavillon gris. Les lumières étaient toutes allumées, mais aucun son ne provenait de l'intérieur. Plus tard, en rentrant chez moi, j'ai cru apercevoir une silhouette vêtue de noir, près de mon portail. J'ai couru vers elle. J'ai entendu un bruit des pas précipités. Inquiète, j'ai enchaîné les réussites jusqu'à l'épuisement, même s'il m'était impossible de dormir. « Vous n'avez pas travaillé hier soir ?» a dit la commerçante. « Je vous ai vu jouer aux cartes, tous les rideaux ouverts. » Elle a souri. « Pas de problème, j'espère. »
C'est la fin de l'émission « Le nombril de Vénus » sur Canal B.
Écoutez Le Nombril de Vénus également en podcast sur le site de canalb.fr. Je vous souhaite un excellent week-end. Allez, à bientôt. Bisous. Bye.
Far from us.